France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Retrouvons ce soir la suite du concert égoïste de Gisèle Halimi, une émission que Claude Maupomet avait enregistrée en 1976. Tout en commentant son programme musical, Gisèle Halimi évoquait ses souvenirs et parlait de son engagement pour la cause des femmes et contre l'injustice et la peine de mort. Dans le programme musical choisi par Gisèle Halimi, Luigi Nono, Francesca Solville, mais aussi des œuvres de Grieg, Mahler, Berlioz et Beethoven avec le premier mouvement de son triple concerto pour violon, violoncelle et piano.
Thank you.
Premier mouvement du triple concerto en ut majeur pour piano, violon, violoncelle et orchestre de Beethoven, interprété par Sviatoslav Richter, David Oistrakh et Mstislav Rostropovitch. Gisèle Halimi, Edward Grieg, Peer Gynt, la chanson de Solveig. Alors, quand j'ai vu que vous aviez mis cette œuvre au programme, cette chanson, j'ai pensé immédiatement à la condition féminine, parce que celle de Solveig n'est pas enviable. Il est vrai que tout le monde ne tombe pas sur Peer Gynt, Dieu merci, tout quotidiennement. Mais je me rappelle qu'étant enfant, la première fois que j'ai vu ça, ça m'avait attristé. Je m'étais dit, si c'est ça la destinée des femmes, c'est pas drôle.
Mm-hmm. Oui, mais
c'est pas pour ça que vous l'avez choisi,
non,
je pense.
Non, c'est pas pour ça. Oui, d'abord là, par exemple, dans la... C'est, là encore, pour moi, c'est une découverte récente, Grieg. C'est très loin de moi, au fond, cette musique nordique, ce folklore...
C'est peut-être pour ça.
Lointain. Oui, cette mythologie, on connaît peu. Enfin, on connaît un peu Ibsen, mais on connaît peu cette musique. Et puis, je l'ai entendue une ou deux fois, et ce qui m'avait frappé aussi, c'est que... vous savez, il y a aussi... Il y a le chant, je crois, ça s'appelle le chant arabe ou la danse arabe qui précède ça. Et ce qui m'avait frappé, c'est précisément à la fois comment ça se ressemblait, ça se choquait en même temps. Et je trouve que ce chant, justement, cette complète de Solveig est quelque chose de... C'est toute la profonde mélancolie scandinave qui est à travers ce chant. Et en même temps, l'ensemble, je parle de l'œuvre et pas seulement de ce chant. Et en même temps, on a l'impression qu'on est un petit peu en Andalousie ou en Espagne. Il y a un mélange qui m'est apparu comme extraordinaire. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça et j'ai d'autant plus aimé ça que je me suis surprise à l'aimer. J'aurais pas eu l'idée d'aimer Grieg, si je puis dire. J'aurais pas eu l'idée de m'intéresser à ce que ça pouvait représenter. Et je trouve ça très, très, très profondément mélancolique. Et puis c'est une ligne là quand
c'est
elle chante.
Qui...
Oui, la mélodie, c'est une ligne très pure, très, très triste effectivement, très triste. Mais pas triste comme on saurait l'être vous et moi, j'ai l'impression.
Un peu résigné.
Un peu résigné. Donc sûrement pas nous.
C'est Ilse Holweg et le Royal Philharmonic Orchestra, dirigé par Sir Thomas Beecham, qui interprétait la chanson de Solveig, de Peer Gynt, de Grieg. Gisèle Halimi, j'ai été surprise par le choix de la symphonie, je ne sais pas pourquoi, le choix de la symphonie fantastique de Berlioz et le bal, ça m'a beaucoup intriguée, ça.
Mais le choix de la symphonie fantastique dirigée par Pierre Boulez, parce que là,
ah oui, mais je suis tout à fait pour.
Je trouve que c'est encore autre chose, enfin, que la symphonie fantastique tout court, comme il l'a dirigée.
Ah oui, mais moi aussi, mais j'attends vos raisons.
Mais je trouve que cette œuvre, je sais pas, je crois qu'elle a fait scandale à l'époque. Moi, je trouve qu'il y a une violence, une force, un mouvement. Qui est quelque chose que j'aime beaucoup, la symphonie fantastique. Je peux vous dire, par exemple, c'est assez curieusement, quand je mets mes 6 cassettes, je mets par exemple la symphonie fantastique et puis la grande symphonie de Schubert. J'essaie de voir s'il y a des points communs. Je ne sais pas qui peut dire s'il y en a ou pas, mais j'ai presque autant de plaisir à entendre l'un que l'autre. Je trouve que ce sont des œuvres très complètes, très fortes aussi. Je trouve la symphonie fantastique, c'est quelque chose de fort qui m'entraîne, je vais vous dire quelque chose de curieux, qui m'entraîne par exemple à travailler aussi.
Thank you.
Symphonie fantastique de Berlioz, le bal. L'Orchestre symphonique de Londres était dirigé par Pierre Boulez. Et nous étions bien contents. Nous trouvions que ça lui convenait parfaitement. Je pense qu'il ne lui convient pas, d'ailleurs. Et vous, Gisèle Halimi, je crois que la symphonie vous convient, parce que vous m'en parlez beaucoup. Vous parlez de la grande symphonie de Schubert. Vous aimez la fantastique. Vous avez beaucoup hésité à mettre la sol mineur de Mozart. Mmh. Et puis, vous avez préféré, en dernier lieu, mettre Mahler, la première.
Le Titan.
Oui. Donc, l'orchestre vous plaît?
Oui. Oui, j'aime l'orchestre. Un peu, j'avais fait une exception un petit peu pour Beethoven, que j'aimais moins que, dans les symphonies.
Oui, mais enfin, il était là, il était présent, l'orchestre, oui, dans le concerto, quand même.
Oui, mais dans les symphonies, je préfère, je veux dire, musique de chambre. Je préfère la musique de chambre de Beethoven, mm-hmm, que les symphonies. Et là, Mahler dans le Titan, c'est, je sais pas, on a l'impression de quelque chose de très subversif. Alors, je ne dis pas que j'aime automatiquement tout ce qui est subversif, mais ce que Mahler a écrit est quelque chose de cette symphonie en particulier. Elle a longtemps fait ma joie et mon bonheur. Je me souviens d'un été 68. Alors d'abord, c'était 68, donc l'été qui suivait mes 68, et où pour la première fois après la guerre d'Algérie, je connaissais de l'Algérie, vous savez, les prisons, les tribunaux, les centres, les tortures, et c'est tout, au fond. Pas le temps de voir l'Algérie autrement, ni la possibilité. Et ça, c'était la première fois où j'allais en vacances en Algérie. J'étais au bord de la mer, j'étais avec mes enfants, j'avais un merveilleux endroit avec des tas de pièces. Et alors j'avais plein d'amis avec qui j'avais dit, si vous voulez venir vous baigner, venez. Ce qui fait que j'avais eu beaucoup de candidats, de volontaires. Et il y avait ce disque, ce Titan de Mahler, qu'on mettait, je crois, presque constamment, qui alternait avec quelques autres disques. Et le sentiment que j'ai à moi, c'est que c'était que physiquement, presque, ça collait un petit peu à tout ce qu'on ressentait. D'abord, quelque chose de nouveau dans ce pays dans lequel je me trouvais, qui est quand même qui correspond à une partie importante, non seulement longue de ma vie, parce que c'est plusieurs années, mais importante parce que j'y ai laissé un peu ma liberté, mais c'était un engagement très total de voir que tout ça se réveillait. Ensuite, c'était le réveil dans la joie, un peu dans la fête, dans l'expression. On était tout le temps en maillot de bain ou nu puisqu'au bord de la mer, et on mettait alors au maximum plein gaz cette symphonie de Mahler que nous entendions tous, et on sentait que c'était à la fois quelque chose, enfin contre tout ce qu'on avait voulu combattre, contre enfin le crime contre l'ordre, contre la loi, et en plus c'était un hymne, enfin moi je le recevais en tout cas comme un hymne à la joie, cette symphonie de Mahler. Et je trouvais qu'il y avait des tas, une connotation de d'autres musiciens que j'aimais bien. Il y avait un passage qui n'est peut-être pas celui qu'on va entendre, mais où on entendait un petit peu comme du Borodine, qui me rappelait du Borodine. Il y avait quelque chose aussi où Stravinsky aurait bien pu puiser, Bruckner aussi, enfin, oui, Bruckner souvent. Et tout ça a fait que moi, je sais qu'il y a une époque, maintenant je l'entends moins. J'entends moins, elle est quand même dans mon toboggan, hein, de temps en temps. Mais enfin, il y a une époque où c'était le Titan, matin et soir. Je sais pas, ça a rythmé, au fond, ça a été quelque chose de... Ça a rythmé, au fond, ma vie pendant tout un été, cet été de 68.
Et quand
68.
Vous la réentendez, vous retrouvez ces souvenirs d'abord?
Je retrouve, oui. Ça, c'est curieux, c'est ce qu'on appelle, enfin, je sais pas, en philo, on a pris ça, on appelait ça les images affectives, enfin si on ne peut pas parler d'images quand on parle de musique, c'est-à-dire qu'en regardant quelque chose, vous avez le même choc, le même sentiment, la même joie ou la même tristesse, que vous faites un retour, un espèce de flashback, mais en direct dans le cœur. Et ça, je l'ai réentendu il n'y a pas longtemps, Mahler. il n'y a pas longtemps et je me suis retrouvée là-bas. Je me suis retrouvée en maillot de bain là-bas et dans l'Algérie qui repartait, quoi.
Nous écoutions le troisième mouvement de la symphonie numéro 1 de Mahler, interprété par l'orchestre Columbia, dirigé par Bruno Walter. Vous êtes retrouvé en Algérie.
Oui, brusquement, oui.
Vous aimez la chanson, Gisèle Halimi ?
Oui, enfin, je...
Quel genre de chanson ?
Oui,
parce que vous en avez choisi deux, qui sont dès qu'on les entendra les titres, on comprendra qu'il y avait des raisons évidentes. Mais en général, quel est le genre de chanson que vous aimez ?
Et même, j'aime la chanson poésie, où la musique colle presque parfaitement au texte et on a l'impression qu'on pourrait, au fond, lire ou écouter, que ça fait un tout. J'aime assez ce que j'appellerais la chanson, enfin engagée, mais sans donner sans nuance un petit peu péjorative, comme on a tendance à le dire, que ça corresponde à une de mes préoccupations du moment, à ce que je sens moi, même à ce que j'aurais dit si j'avais su écrire de la musique et chanter, au lieu de plaider. Et c'est un peu le sens de mon choix. J'aime aussi la chanson qu'on n'imagine pas autrement, je veux dire, qu'on ne pourrait pas lire, qui prend tout son sens parce que, justement, il y a la musique et le rythme qui lui donne, là encore, c'est là où la forme donne un fond nouveau dans la chanson. Enfin, pas tout, très franchement, pour en revenir à mon toboggan du soir.
Il y a peu de chansons.
Il y en a
tout de même
peu. Je dois en avoir, je ne sais pas, 4 ou 5. Pas plus. Peu.
Bien. Nous écoutons Francesca Solville qui chante Demande aux femmes.
Elles sont nées pour faire rêver dans les magazines et dans les vitrines. Les femmes ont tant de frivolité. Demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour balayer et faire la vaisselle, vider la poubelle. Les femmes ont tant d'habileté, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour enfanter et savent dès l'enfance que c'est dans la souffrance. Montant de générosité, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont nées pour travailler et faire chacune deux journées dans une. Les femmes ont tant d'agilité, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle. Elles sont faites pour lutter, quand c'est leur colère qui remue la terre. Les femmes aussi savent lutter, demande à Rosa et à Angela, demande à Colette et Antoinette, demande à Christine et à Micheline, demande à Hélène et puis à Guylaine, demande à Gisèle et à Isabelle.
Demande aux femmes, de Claude Reva et Jean-Paul Roseau, par Francesca Solville. Je vous demande, Gisèle, si c'est vous dont il s'agit.
Je pense, parce que les prénoms que Francesca Solville, qui est une de mes amies, qu'elle chante, là, sont des prénoms qui correspondent à des amies communes et qui ont toutes fait quelque chose. Oui. Choisi. Je trouve que j'aime bien cette chanson. D'abord, j'aime beaucoup Francesca parce qu'elle a un talent, en prise directe avec une sensibilité populaire. On lui reproche quelquefois de chanter fort et je trouve que ça, c'est des choses qu'il faut chanter fort, qu'il faut presque gueuler au fond parce que comment elle fait ? Il y a des tabous qu'il faut faire éclater. Et puis nous, on le dit comme des intellectuels avec nos références et avec nos remontes à la Genèse. Et cette chanson, je la trouve admirablement simple, forte, et dite par Francesca, elle a un côté lutte des femmes, mais lutte dans la fête. Moi, je me souviens, tout récemment, j'ai fait une conférence débat dans un centre populaire à Pau, et j'ai été très très heureuse, parce que quand je suis arrivée, d'abord, il y avait plein de monde, et ça fait toujours plaisir que... Il y a tant de femmes et d'hommes qui s'intéressent à la cause des femmes, puisque c'était le titre. Mais alors, il y avait une ambiance formidable, parce que c'était le disque de Francesca qu'on avait mis, celui-ci, et on entendait les personnes qui étaient là presque leur prendre en cœur, et je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai eu aucun mal à enchaîner là-dessus, tout de suite. J'avais l'impression que c'était un petit peu la même chose qu'on disait avec nos moyens différents, elle et moi.
Gisèle Halimi, dans votre métier, est-ce que votre engagement moral, idéologique, je ne sais pas comment exactement le qualifier, vous a créé des problèmes ?
Ah oui, beaucoup. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord,
est-ce qu'il en crée toujours ?
Franchement, moins. On se disait avec un de mes confrères que j'admire beaucoup, parce qu'il va plaider une des affaires les plus difficiles de notre époque, qui est l'affaire de Patrick Henry, et où il est question quand même, et aussi la grande bataille à mener, qui est notre bataille, qui est de l'abolition inconditionnelle de la peine de mort. Je pense que c'est une bataille que nous menons, enfin, plus tard on le dira peut-être de nous, de ce que nous faisons, que d'une certaine manière, nous serons ceux, là, les avocats qui sont contre, qui tentons de sauver un petit peu l'honneur de ce pays, la France qu'on dit civilisée. Bien, nous disions avec cet avocat qu'on est arrivé à un stade, parce qu'on a vieilli, parce que ça fait 25 ans qu'on est avocat l'un et l'autre, qu'on est arrivé à un point où on peut dire un peu tout ce qu'on veut, même si, par exemple, à l'occasion d'une plaidoirie sur des violences policières, comme il m'a été donné d'avoir comme affaire, donc des affaires un peu toujours difficiles, eh bien, j'avais envie à ce moment-là de parler de notre lutte pour l'avortement et la contraception. Et à ce moment-là, je l'ai dit, personne, je pense, n'a osé m'arrêter. Mais quand j'ai commencé, quand j'étais avocate et que j'avais les engagements que j'avais, j'ai senti un peu toutes les oppressions à la fois. D'abord, d'être avocate ce que les autres diraient dans le mauvais sens. Moi, je crois que c'est le seul sens dans lequel on peut être avocat, se battre contre tout ce qui est injuste, et parce que l'injustice est physiquement intolérable, comme je l'ai dit, parce que je l'ai senti. Et puis, parce que j'étais très jeune, j'avais commencé à être avocate à 20 ans et que personne ne me prenait au sérieux quand j'arrivais dans un prétoire comme ça pour parler. Et pour parler de quoi ? Pour parler du droit d'un pays de ne plus être colonisé, pour sauver, j'avais en main la liberté, la vie de militants au fond, et tout ça m'a valu d'abord de ne pas être prise au sérieux, ensuite beaucoup plus sérieusement, ça m'a valu des menaces de mort. J'ai quand même été arrêtée pendant la guerre d'Algérie, tout simplement parce que j'étais une des avocates du FLN, mais mon Dieu, à ce moment-là, je dure, il n'y a pas... je ne sais pas, on se trouve dans des situations telles, quand on a fait des choix comme ça, qui sont des axes, qui font que très franchement, et je ne le dis pas du tout pour faire un petit peu le numéro de fausse modestie, mais au moment où on le fait, on n'a presque aucun mérite, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'alternative que celle-là. Ou alors, il fallait choisir de faire autre chose. Oui, il fallait choisir de faire autre chose.
Nous écoutons Le condamné à mort de Jean Genet par Hélène Martin.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh, viens mon beau soleil, oh, viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les
fleurs soupirer et débrer l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, oh ma corbeille blonde, visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalades mort, mais viens pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descends, marche léger, vole dans l'escalier plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Au traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans, couvre-toi de lumière, use de la menace, use de la prière. Mais viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Le condamné à mort, de Jean Genet, musique d'Hélène Martin, par Hélène Martin. Ça, c'est une belle chanson.
Je trouve que Jean Genet et Hélène Martin plaident beaucoup mieux que Badinter ou moi-même pourrions le faire contre la peine de mort, parce que
beaucoup mieux, non, je crois pas, mais enfin ils plaident avec leur moyens.
Je trouve que c'est opposé à ce point ce qu'est la vie, la mort, à cette abominable cérémonie expiatoire qu'est la guillotine. Genet le dit et Hélène Martin le chante d'une manière extraordinaire. Je veux dire, il y a tout ce qui... L'amour, bien sûr, c'est un chant d'amour, mais il y a le panthéisme, même il y a une fond de panthéisme dans ça. Tant qu'il y a la peine de mort en France, moi je prétends que tant qu'il y a la peine de mort en France, eh bien, la France ne peut pas encore se dire civilisée.
Gisèle Halimi, vous aimez la musique contemporaine en général ?
En général, c'est beaucoup dire. C'est beaucoup dire parce que je ne suis pas assez cultivée en musique.
Vous n'avez pas assez le temps d'être au courant et voilà. D'en entendre suffisamment, probablement.
Voilà, alors j'ai des approches un petit peu, si je puis dire, affectives de la musique contemporaine. J'aime Werner Hansé, j'aime Luigi Nono, mais il faut que j'ajoute parce que je les aime eux-mêmes.
Parce que vous les connaissez.
Parce que je les connais, parce que
vous êtes proche d'eux.
Parce que je suis proche d'eux, parce que j'aime leurs engagements, parce que j'aime ce qu'ils sont, leur manière de se battre. Et à partir de là, c'est par cette approche, c'est peut-être pas la bonne, diraient les bons mélomanes, mais quelle importance, c'est par cette approche que j'ai connu leur musique et aimé leur musique. C'est comme ça que j'ai pu entendre des disques ou des bandes que d'eux m'avaient envoyées ou données, et que après avoir été une première fois surprise, j'ai aimé. Pour Luigi Nono, par exemple, c'est assez étrange d'ailleurs comme histoire. Quand j'avais écrit le livre sur Djamila Boupacha, qui était cette jeune Algérienne du FLN qui avait été abominablement torturée, il m'avait écrit pour me demander de lui envoyer des documents parce qu'il m'avait-il dit il voulait écrire quelque chose, et à la suite de je sais plus quelles circonstances, je n'avais pas répondu, et on s'est rencontrés, Nono et moi, à Cuba pendant le congrès culturel, et c'est là où pour la première fois il m'a dit, tu sais, je l'ai quand même écrite cette musique, et c'est là où pour la première fois j'ai entendu cette hymne au fond à Djamila Boupacha qu'avait écrit Nono, et qui a été pour moi un grand moment, mes grands moments dans le sens terrible. Enfin, c'est peut-être, je crois, un des privilèges de cette musique moderne, c'est de te rendre à l'état pur, au fond, ce qui écorche, ce qui brûle, ce qui hurle. À la limite, c'est quelquefois insoutenable.
Cet extrait du recueil Canti di Vita e d'Amore de Luigi Nono concluait le programme du concert égoïste de Gisèle Halimi, une émission de Claude Maupomet enregistrée en 1976. Cette archive est bien sûr disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des Trésors de France Musique. Nous étions ce soir en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation avec Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.